Il a été retrouvé noyé dans la Vologne, une rivière des Vosges. Il avait les poignets liés et une cordelette autour du cou. Le petit Grégory, 4 ans, a été assassiné et le meurtrier a téléphoné à la famille après avoir accompli son geste horrible.
Il y a 40 ans, le meurtre d'un petit garçon dans la région française des Vosges marquait le début d'un des plus longs et incroyables feuilletons judiciaires. De rebondissements en coup de théâtre, l'affaire Grégory a passionné les foules et fait couler beaucoup d'encre. De la thèse du complot familial à celle de l'infanticide, elle a suscité aussi beaucoup de fantasmes. Quatre décennies après les faits, l'enquête est toujours ouverte. Les parents de l'enfant, aujourd'hui sexagénaire, espèrent toujours avoir des réponses. Qui a enlevé Grégory? Pourquoi et comment a-t-il ou ont-ils procédé? Des questions que se posent quotidiennement celles et ceux qui ont pour mission d'élucider des crimes, quels qu'ils soient. C'est le cas de Serge Bühlmann, commissaire technique, chef du commissariat d'identification judiciaire de la police fribourgeoise, et de Raphaël Bourquin, procureur général adjoint du canton de Fribourg. Tous deux ont accepté de nous parler de leur métier et de leur objectif commun, la recherche de vérité. Un podcast signé Sarah Camporini. Serge Bühlmann, le chef du commissariat d'identité judiciaire de la police fribourgeoise, n'était pas né quand Grégory Villemain est mort assassiné. Mais cette affaire l'a fasciné, comme d'autres grands dossiers criminels. Les images en noir et blanc de ce petit enfant, pieds et poings liés et bonnet sur le visage, qu'un pompier volontaire sort de la Vologne, l'ont forcément marqué. La scène de crime, le point de départ de toute enquête, sorte de tableau éphémère et fragile.
On doit être conscient que la trace que j'observe au moment T, finalement, elle peut ne plus être là dans quelques minutes. Il peut y avoir des conditions atmosphériques, météorologiques qui changent. On peut justement être à l'intérieur, à l'extérieur. C'est plein de paramètres qui font que cette scène de crime, bien que figée d'un point de vue des accès des personnes, va toujours être en mutation et en perpétuel changement.
Le temps, c'est la vérité qui fuit. Ce mantra, Serge Bühlmann l'a en tête, quand il arrive sur une de ces fameuses scènes de crime. Pas seulement dans le cas extrême d'un homicide, mais même pour un simple cambriolage, par exemple. Il y a un protocole précis à respecter.
Premièrement, quand il y a un événement qui est signalé à la police cantonale, normalement par le 117, l'appel arrive à la centrale et une patrouille est envoyée sur les lieux. Cette patrouille a pour objectif d'aller constater les faits et finalement engager les différents partenaires, les services spécialisés de la police cantonale selon la situation. Donc dans un cas d'homicide, dans un cas important, on aura des experts de la police scientifique dans mon service, on aura des gens travaillant dans des brigades d'enquête, on aura des experts en accident, des plongeurs. Finalement, tout dépend un petit peu de la typicité de cette infraction, de cet événement qui va influencer, qui intervient.
Dans les cas graves, comme la découverte d'un cadavre, dans des conditions suspectes par exemple, le procureur de permanence viendra également sur place pour se faire déjà une idée de la situation. Mais il laissera les différents experts faire leur travail.
Ces gens-là vont devoir remplir un petit peu leur mission au niveau de la police scientifique. Si ce qui va se passer dans un cas comme ça, premièrement, ce sera un bouclage des lieux où, après avoir constaté les faits, vu que quelque chose était suspect, on va ressortir de cette scène de crime. Donc, quand on parle de scène de crime, c'est quelque chose au sens large, au sens juridique. Donc finalement, un cambriolage, c'est une scène de crime. Un incendie, c'est une scène de crime. Et puis donc, on va essayer de préserver l'ensemble des traces qui se trouvent sur cette scène. Et puis pour ce faire, c'est retirer les gens et puis nous laisser intervenir.
La scène de crime bouclée, le travail de la police scientifique commence véritablement. Avec un principe, partir du général pour aller au particulier.
Un des premiers éléments, c'est souvent de travailler au niveau du sol pour pouvoir faire ce qu'on appelle la libération du sol. Donc on essaie de regarder un petit peu les traces de semelles, les traces de pneumatiques, parce que finalement, ces traces sont assez facilement effacées si on se déplace nous-mêmes sur les lieux. Donc lorsque cela est fait, le sol est libéré et puis on peut aller chercher des objets, focaliser sur des prélèvements ADN ou d'autres constatations. Et puis évidemment, tout cela est fait en photographiant les lieux, c'est ce qu'on appelle un petit peu le gel du site, où on va avoir une image la plus parfaite possible de la situation telle qu'elle était au moment de l'annonce à cette première patrouille. Évidemment, on n'arrivera jamais à la situation où on était là au moment de l'événement. Par contre, on veut avoir une bonne idée de où étaient placés quels objets, et ainsi de suite.
Et s'il est une qualité importante dans ces circonstances, c'est évidemment le sens de l'observation, parfois inné, mais surtout aiguisé par des années de pratique.
Oui, alors je pense qu'en général, quand on fait un petit peu ce métier, ou même ces études-là, on a envie d'observer, on est sensible peut-être aux détails, et puis très souvent, ça s'apprend, ça s'acquiert via l'expérience, le nombre de cas qu'on peut faire, et peut-être ces cas relativement simples de cambriolage ou des cas de mort suspecte où il n'y a pas d'intervention d'une tierce personne, nous aident un petit peu à avoir l'œil et finalement être prêt pour intervenir quand c'est des cas plus importants qui demandent d'avoir un sérieux total.
Dans cet extrait du film « Scène de crime » qui porte bien son nom, des policiers scientifiques sont à l'œuvre dans un appartement suspect d'un immeuble en chantier. Ils portent des combinaisons blanches, des lunettes de protection sur le nez et des surchaussures, des précautions nécessaires pour éviter de contaminer les lieux et laisser leurs propres traces ADN ou autres sur place. Ils s'attelleront ensuite à récolter autant d'éléments pertinents que possible.
Alors finalement, on prélève tout ce qui peut être pertinent pour l'affaire. Mais très souvent, c'est des traces de semelles, c'est des prélèvements ADN qui peuvent se trouver directement sur la scène. Par exemple, une poignée de porte qui a été manipulée par un auteur. Alors là, on ne va pas prendre la porte au laboratoire. Par contre, si c'est une bouteille qui a été utilisée pour frapper un individu, cette bouteille sera prise au laboratoire. On pourra chercher dans un premier temps des traces de doigts, des traces papillaires. Et dans un deuxième temps, on pourra aussi faire, par exemple, des prélèvements ADN. Et puis finalement, tout objet qui peut être en lien avec l'affaire. C'est un petit peu l'expérience, la réflexion des enquêteurs de mon service, de se dire, voilà, ce que j'ai en face de moi, est-ce que c'est quelque chose de normal? Est-ce que c'est quelque chose de spécial qui a pu entrer dans l'action délictueuse? On doit se poser cette question et analyser un petit peu cet environnement pour pouvoir faire des prélèvements finalement pertinents.
Tout le monde est prêt? Lumière.
Là, ce sont aux éventuelles traces de sang que les policiers de scène de crime s'intéressent, en obscurcissant complètement la pièce et en pulvérisant du luminol, un composé organique qui, en présence du fer contenu dans le sang, produit de la lumière.
Ça a giflé sur le mur.
Dans la fiction, les traces apparaissent instantanément et de manière bien nette. Dites donc, Serge Bühlmann, ça se passe vraiment comme ça dans la réalité?
Très souvent, on doit obscurcir un local pendant un petit moment, et puis cette tache bleue, à la seconde, n'est pas forcément visible, mais si on regarde ça sur une plus grande durée, on arrive à obtenir des résultats intéressants. Donc souvent, on prend des photos avec un temps de pause de 30 secondes pour que cette toute petite luminosité devienne quelque chose de beaucoup plus marquant, et puis on peut retrouver des traces de sang, et ainsi de suite.
On l'aura compris, dans le monde réel, tout prend plus de temps. Le policier scientifique doit souvent s'armer de patience et se montrer très méticuleux.
Oui, alors c'est sûr que l'absence de connaissances, l'absence de compétences peut avoir des graves conséquences sur les suites d'une enquête. Et on se doit de faire les choses correctement. Après, on a aussi un système de formation au sein du service où une nouvelle personne, qu'elle soit de l'UNI ou du corps de police, sera suivie. On va intervenir à plusieurs. Donc c'est vrai que parfois, on a l'impression que ça prend du temps. J'imagine les lésés qui parfois doivent attendre à l'extérieur de la maison qu'on fasse le constat de cambriolage. C'est parfois un peu frustrant, et parfois il fait froid, c'est 23h, on a envie de rentrer, d'aller se coucher parce que la soirée était longue. Mais on a besoin de ce temps pour travailler correctement et puis d'éviter la précipitation qui est un facteur très négatif par rapport aux résultats des preuves.
Et dans ce domaine, l'affaire Grégory est un véritable cas d'école. Quand le petit garçon est découvert dans la Vologne à Docelles, son corps retenu par un barrage de rochers et de cailloux, aucun périmètre de sécurité n'est installé. Pompiers, gendarmes et même badauds piétinent les lieux. Aucune empreinte de pneus n'est relevée près de la rivière. Certains prélèvements, mal réalisés, s'avéreront inutilisables. Les cordelettes qui entravent les membres de Grégory, ses vêtements et ses chaussures sont manipulées sans précaution. Plus tard, le premier médecin légiste qui examine le petit corps, déposé dans le hangar le plus proche, ne porte même pas de gants. Chronique d'un fiasco annoncé, dont les autorités françaises ont tiré les leçons. Moyens décuplés, meilleure formation des policiers, fichiers nationaux d'empreintes digitales et plus tard génétiques. Avec un leitmotiv, figer la scène de crime et prélever un maximum d'éléments dans un minimum de temps. Les fondamentaux, connus depuis longtemps, comme le souligne Serge Bulman, mais peut-être plus facilement applicables ici.
On a la chance aussi d'être en Suisse, où je pense qu'on a un service de police scientifique d'une manière globale, que je pourrais peut-être qualifier de luxe comparé à la France, où finalement chaque canton en Suisse a son service de police scientifique, a plusieurs collaborateurs qui connaissent le métier, qui font des prélèvements de traces, alors qu'en France, c'est beaucoup plus délicat. On a un service central au niveau police nationale, au niveau gendarmerie aussi, et puis finalement, par département, il n'y a que très peu d'agents de police technique et scientifique, comme on l'appelle en France souvent. Donc là aussi, c'est un élément clé, où en quelques minutes sur Fribourg, on peut avoir plusieurs inspecteurs ou inspectrices qui sont sur les lieux pour faire ce constat scientifique.
Mais concrètement, que fait-on des échantillons prélevés, des éléments récoltés? Eh bien, vous verrez dans le deuxième épisode de ce podcast que 40 ans après l'affaire Grégory, la situation a beaucoup évolué.